Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Faible score de la majorité présidentielle après les élections législatives, elle obtient une majorité relative. Élection marquée par une forte percée de la gauche unie et un score historique du Rassemblement national. Nous écouterons Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. La France salue l'action du tribunal pour le Liban. 17 ans après l'assassinat de Rafik Hariri, le TSL a condamné en appel le 16 juin dernier Habib Emery et Hussein Onéissi à la réclusion à perpétuité de membres du Hezbollah jugés par contumace. Les pays occidentaux doivent évacuer de toute urgence les migrants les plus vulnérables bloqués en Libye, un appel de Médecins sans frontières. Cette demande de l'autorité palestinienne, elle appelle Israël à lui remettre l'arme qui a tué le mois dernier en Cisjordanie occupée la journaliste de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Au moins 20 civils et un casque bleu ont été tués dans le nord du Mali, c'est arrivé près de la ville de Gao. Le coup d'envoi, samedi prochain, des Jeux méditerranéens à Oran, ce sera la 19e édition. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Pas de majorité absolue pour le camp présidentiel après les élections législatives. Le parti présidentiel est majoritaire, mais il lui manque 44 députés pour obtenir une majorité absolue. La coalition de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale obtient 135 sièges, 89 pour le Rassemblement national qui réalise ainsi une percée historique et 61 pour les Républicains. L'abstention a atteint 53,77%, une hausse de plus d'un point par rapport au premier tour. Sur les 15 ministres en lice, 3 ont été battus et devront quitter le gouvernement. Amélie de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin, secrétaire d'État à la mer. La nouvelle Assemblée nationale comptera 215 femmes et 362 hommes. Entretien avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne.
Le premier enseignement, c'est l'enseignement qui frappe par son caractère inédit, c'est-à-dire l'absence de majorité claire à l'Assemblée nationale, ce qui, de fait, est quand même une première dans une telle configuration sous la Ve République, parce que le président de la République, pour l'instant, ne dispose pas des forces d'appoint qui lui permettraient même de relever son niveau de majorité relative. Donc on est dans une situation qui est une situation de blocage à ce stade. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment le résultat de la gauche qui, toute composante réunie, permet à la gauche de retrouver un poids parlementaire qu'elle n'avait plus à l'Assemblée nationale. De ce point de vue, Jean-Luc Mélenchon a réussi une partie de son pari, quoique il n'est pas tout à fait vraisemblablement ce pari à la hauteur de ce qu'escomptait vraisemblablement là aussi Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de représentants de la gauche. On peut considérer que les résultats sont un peu en deçà des projections sondagières, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un retour de la gauche de manière assez forte au Parlement. Troisième élément, c'est évidemment, et ça a été noté, la percée du Rassemblement national. Le Rassemblement national est aujourd'hui en mesure d'être seul la force d'opposition principale, d'une certaine manière, au moins quantitativement, à Emmanuel Macron. C'est une progression soutenue où le Rassemblement national l'entend dans des départements où on ne l'attendait pas forcément, et c'est évidemment une donnée nouvelle dans le jeu parlementaire. Quatrième enseignement, c'est le résultat des Républicains. Il va de soi que l'absence de majorité aujourd'hui remet là aussi au centre du jeu ce groupe qui devrait être l'objet de bien des attentions de la part d'Emmanuel Macron, sachant que néanmoins, à ce stade, les principaux responsables politiques des Républicains ont opposé une fin de non-recevoir à une éventuelle alliance avec Emmanuel Macron et les partis qui sont les composantes de de la majorité présidentielle.
Et vous soulignez que la nouvelle Union populaire écologique et sociale est une coalition, une alliance et non un groupe politique, et c'est pourquoi ce n'est pas aujourd'hui le premier groupe d'opposition au sein de l'Assemblée nationale.
Oui, c'est-à-dire que stricto sensu, si vous voulez, que chaque composante de cette alliance, de cette coalition, formera son propre groupe parlementaire. Et donc, les insoumis qui sont majoritaires au sein de cette coalition sont à ce stade derrière arithmétiquement le Rassemblement national. Il n'en demeure pas moins que la coalition, et c'est encore une fois une réussite de ce point de vue-là, de la gauche, empêche Emmanuel Macron de disposer d'une majorité absolue. Ils font qu'on rentre dans une situation qui est une situation très incertaine sur le plan politique, notamment en matière de stabilité.
La principale surprise de ce second tour, c'est finalement le score du Rassemblement national qui réalise cette percée historique.
Ça dépend de la lecture que l'on adopte, c'est-à-dire que si l'on considère que le Rassemblement national, depuis deux scrutins présidentiels, qualifie sa présidente pour le second tour de l'élection présidentielle, il n'est pas très étonnant, in fine, que le Rassemblement national puisse disposer, disons, d'une représentation parlementaire qui est à la hauteur de son poids électoral. Sauf que jusqu'à présent, le Rassemblement national était handicapé, empêché, entravé par un mode de scrutin, le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui l'empêchait de disposer de réserves de voix pour le second tour. Là, ce à quoi nous avons assisté, alors il faudrait analyser ça de près dans chacune des circonscriptions qui ont porté un député Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Il est clair qu'il y a eu, si vous voulez, des réserves de voix qui ont permis à ces députés, à ces candidats de pouvoir se faire élire. Alors,
traditionnellement, le premier groupe d'opposition obtient la présidence de la commission des finances. Quel est le rôle de cette commission? Est-elle particulièrement importante?
Oui, elle est importante parce que la commission des finances, comme son nom l'indique, c'est elle qui examine au fond le budget. Elle a des pouvoirs d'enquête aussi, de contrôle qui sont extrêmement importants. C'est, disons, une commission qui a un pouvoir dans le fonctionnement de l'Assemblée qui n'est pas négligeable. Alors, le règlement de l'Assemblée stipule en effet que, en principe, c'est la principale force politique d'opposition qui échoit la présidence de cette commission. C'est une initiative que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait mise en œuvre pour ouvrir le champ du Parlement à l'opposition lorsque cette opposition était minoritaire. Il y aura une bataille. Il y aura une bataille, clairement, entre d'un côté le Rassemblement national qui peut revendiquer du fait de son poids politique à l'Assemblée nationale la présidence de cette commission, et la gauche qui elle aussi est en mesure de revendiquer. Il est clair que si c'est le critère du groupe parlementaire qui est, disons, retenu pour désigner le président de cette commission, le Rassemblement national aura un avantage évident. Si c'est disons, la force politique à travers une coalition qui est déterminante, la gauche pourrait revendiquer elle aussi cette commission. Le problème est de savoir qui est à gauche, parce qu'il est évident que confier la présidence de la commission des finances aux insoumis, ce n'est pas la même chose que de la confier à un représentant du Parti Socialiste. Donc on verra jusqu'où la majorité très relative, il faut le dire, d'Emmanuel Macron sera prête à aller pour faire en sorte que cette commission des finances soit présidée par un député de gauche.
Et diriez-vous que malgré l'absence de proportionnel, cette nouvelle Assemblée nationale est à l'image de l'état de l'opinion?
Oui, clairement. C'est-à-dire que ça, c'est la réalité politique du pays aujourd'hui, ce n'est pas tant l'élection présidentielle que cette élection législative qui reflète les courants dominants de la vie politique française.
Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. La France salue l'action du tribunal spécial pour le Liban, le TSL, qui a condamné en appel le 16 juin dernier Habib Meri et Hussein Onaissi à la réclusion à perpétuité, la peine la plus lourde prévue par le statut et le règlement du tribunal. Les deux membres du Hezbollah ont été jugés par contumace 17 ans après l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. Paris estime que cette décision était attendue des familles des victimes comme de la communauté internationale. La France qui indique que ce verdict doit à présent être pleinement exécuté. Les pays occidentaux doivent évacuer de toute urgence les migrants les plus vulnérables bloqués en Libye. Un appel de Médecins sans frontières. L'ONG publie un rapport dans lequel elle propose notamment l'ouverture de nouveaux corridors humanitaires. Elle estime que les quelques voies légales de sortie mises en place par l'Organisation internationale des migrations et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU sont trop restrictives et lentes. MSF insiste par ailleurs pour que les États de l'Union européenne cessent leur soutien politique ou financier au système de retour forcé vers la Libye lorsque des candidats à l'exil sont interceptés en mer. Au moins 20 civils et un casque bleu ont été tués dans le nord du Mali. C'est arrivé près de la ville de Gao samedi dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement cette attaque. Il rappelle que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et que leurs auteurs sont passibles de poursuites. Cela arrive dans un contexte tendu de négociations sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU. L'autorité palestinienne demande à Israël de lui remettre l'arme qui a tué le mois dernier en Cisjordanie occupée la journaliste de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Une demande formulée à l'occasion d'une cérémonie à sa mémoire. Des responsables palestiniens ont multiplié les hommages pour marquer le 40e jour de deuil depuis le décès le 11 mai dernier de la journaliste tuée par balle dans le camp palestinien de Jenin, bastion des factions armées palestiniennes où des soldats israéliens menaient ce matin-là une opération armée. Il était prévu en octobre prochain en Égypte, le festival de cinéma d'El Gouna aura finalement lieu l'année prochaine. Ses organisateurs affirment que les défis mondiaux en ce moment ne sont pas propices à son organisation en Égypte, touchée par la flambée des prix née de la guerre en Ukraine. Aucune date précise n'a été décidée pour la 6e édition de ce rendez-vous du cinéma arabe. 6000 athlètes ont rendez-vous à Oran le 25 juin prochain. Ce sera le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux Méditerranéens 2022. Une compétition jusqu'au 6 juillet. La ville algérienne d'Oran deviendra ainsi la capitale du sport méditerranéen, comme le souligne Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
C'est un grand défi pour la ville d'Oran. Vous savez que Oran, c'est la deuxième ville du pays. C'est une véritable métropole à l'ouest d'Algérie. Elle a eu la chance de gagner une année, entre guillemets, puisque l'événement devait avoir lieu en 2021. Il a été reporté à cause de la pandémie de Covid-19. Et donc, la ville a profité pour avancer, notamment la construction de certains sites et endroits où les épreuves auront lieu, donc notamment le nouveau stade olympique d'Oran, qui peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Il faut noter que les Jeux méditerranéens, les 19e d'Oran, auront lieu donc effectivement du 25 juin au 6 juillet. Il y aura une cérémonie d'ouverture et de clôture qui a été coordonnée par un musicien, par aussi un compositeur, également un maestro, qui est Salim Dada, préparation avec des danseurs et des athlètes. Et en tout, il y aura 6300 athlètes qui viendront de 26 pays et qui vont donc concourir dans 244 épreuves, distribué sur 24 disciplines. Donc c'est un grand défi pour la ville, pour les autorités locales. Le président Abdelmadjid Tebboune a réuni à plusieurs fois le comité d'organisation qui est présidé par Aziz Delouest, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de handball et qui a décroché donc avec cette équipe plusieurs titres africains. Il a été aussi ancien ministre. Et donc c'est lui-même qui coordonne avec une équipe sur place à Oran les préparatifs de ces Jeux méditerranéens.
Et au cœur de cet événement, il y a aussi la protection de l'environnement.
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup d'activités annexes à côté des Jeux, parce que le comité d'organisation a profité donc de l'intérêt suscité, notamment dans les médias, pour ces Jeux et pour cet événement sportif, pour organiser des activités citoyennes, des activités ludiques, des activités destinées aux enfants. Et il y aura effectivement des activités liées à l'environnement avec les associations locales, avec plusieurs organismes notamment qui ont un rapport avec l'environnement, avec la protection de l'environnement, avec l'écologie, nettoyage du littoral oranais, nettoyage des forêts, embellissement des établissements publics. C'était un événement effectivement suivi, très suivi sur les réseaux sociaux, puisque les Jeux méditerranéens, ce n'est pas uniquement le sport, parce que d'ailleurs, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'activités culturelles.
Et cela a un impact, bien entendu, sur l'attractivité de cette ville.
Oui, parce que l'un des objectifs tracés pour les préparatifs de ces Jeux et la tenue de ces Jeux, c'est justement l'aspect touristique, puisque la ville d'Oran est une ville touristique par excellence. Il y a un immense littoral, il y a aussi l'église de Santa Cruz, qui est donc sur les hauteurs d'Oran, dans le mont Murjajo, il y a le port espagnol, il y a la corrida d'Oran, qui est la seule arène qui existe en région africaine, en Afrique. Il y a le vieux quartier comme de Sidi Houari. Oran, c'est aussi la ville du Rail, c'est la ville de Cheb Khaled, c'est la ville de Cheb Hasni, de Cheb Nasrou, de Zawaniya, Fadela et d'autres. C'est une ville donc, qui a connu aussi beaucoup, beaucoup de présence espagnole par le passé. Et il y a beaucoup de ruines, il y a beaucoup de monuments, il y a beaucoup d'espaces culturels et naturels à visiter. Donc cet aspect est mis en valeur par le comité d'organisation pour justement que les athlètes qui viendront ou les journalistes, la forte délégation de journalistes qui viendront pourront faire de la promotion à cette ville. D'ailleurs, des contrats sont signés avec des chaînes européennes pour faire de la promotion de la ville d'Oran comme une destination, l'une des destinations touristiques en Algérie, puisqu'il y a beaucoup d'endroits à visiter en Algérie en dehors d'Oran.
Et vous évoquez l'Espagne, la côte oranaise est justement connue notamment pour la plage des Andalouses.
Oui, il y a un complexe touristique dans cette zone qui a une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Oran, donc en allant vers la route d'Ain Temouchent et de Tlemcen, qui sont aussi deux wilayas côtières de la côte ouest algérienne. Il y a un complexe qui a été construit en partie par Pouillant, qui est l'architecte français qui est connu. Et d'ailleurs, dans cette zone, il y aura la base nautique, une base nautique qui va abriter les, par exemple, les compétitions de voile. Et c'est un complexe à visiter, compte tenu de son architecture, de son emplacement. Il est situé entre une forêt et une plage. Il y a aussi la région de Ain Turk, qui est une très belle région. Il y a la corniche oranaise, célèbre et chantée d'ailleurs par les chanteurs du Rail. Il y a aussi, Oran est aussi connu par ses cabarets, par ses boîtes de nuit, par ses discothèques. D'ailleurs, c'est la seule ville d'Algérie qui en a un nombre aussi élevé. Très fréquenté d'ailleurs en période estivale.
Ces Jeux méditerranéens en Algérie, c'est une première depuis 1975.
Oui, absolument. Tout le monde se rappelle de ces Jeux de 1975, parce qu'il y a eu beaucoup d'images qui sont maintenant gardées dans les archives. Et l'Algérie a voulu à plusieurs reprises réorganiser ces Jeux méditerranéens. Mais évidemment pas Alger, puisque Alger est une ville méditerranéenne, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'autres villes dans le pays, dont Oran, par exemple, à l'ouest, ou Skikda, Annaba, Djigel, Bijaya, à l'est d'Alger. Et cette manière d'organiser l'événement, c'est aussi un défi pour les autorités algériennes, un défi aussi pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, aussi pour les autorités locales, puisqu'il y a eu beaucoup d'infrastructures construites durant une période très courte, notamment le stade olympique d'Oran, notamment le complexe sportif de Bir El Djir, de Sidi El Béchir, etc. Ça permet à la ville aussi d'Oran d'avoir des infrastructures pour d'autres événements sportifs.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Alexia Germont, fondatrice et présidente de France Audacieuse. Émission rediffusée ce mardi matin à 7h. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.